L'épître de Jacques, chapitre 2, les versets 14 à 18 pour notre méditation de ce dimanche. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 18. Au nom de Jésus, la foi et les actes. Mes frères, à quoi cela sert-il qu'un homme dise « j'ai la foi » s'il ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur ait besoin de vêtements et n'ait pas assez à manger. À quoi cela sert-il que vous leur disiez au revoir, portez-vous bien, chauffez-vous et nourrissez-vous suffisamment? Si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre, il en est ainsi de la foi. À elle seule, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est morte. Mais si quelqu'un dit « tu as la foi et moi j'ai les actes », alors je lui répondrai « montre-moi comment ta foi peut exister sans actes, et moi je te montrerai ma foi par mes actes ». Amen. Comme disait un chirurgien, quand Dieu fait quelque chose, il le fait très bien. C'est la sensation que j'ai quand j'ai préparé ce texte, et ce texte tombe bien à pic pour notre culte de rentrée, vu que nous nous préparons à retrousser nos manches, comme on dit, pour faire face aux nouveaux défis qui nous attendent pour cette nouvelle année académique. Les uns et les autres se souhaitent dans ce moment une bonne reprise, que ce soit à l'école, à l'université, dans le milieu professionnel. Mais pour nous aussi, avant de démarrer cette année, je pense qu'il serait plus sage de se poser la question suivante. Sur quel pied nous allons danser pour cette année 2021-2022. On a toujours la tendance de motiver la troupe à faire mieux qu'avant, n'est-ce pas, dans tous les secteurs. Mais au risque de les presser comme des citrons, faire mieux que l'année passée, et qu'à la fin, nous n'avons plus de jus, fatigués, voire même dégoûté, cela peut arriver, même dans le ministère de l'Église. Ici, le texte, l'épître de Jacques, en plus ça tombe bien, l'épître très polémique qui fait du bruit, elle a un ton assez fort, provocateur même, vous venez de l'entendre. Et de ce fait, cet épître a des détracteurs, et pas les moindres, surtout un certain Martin Luther, qui n'aime pas trop cet épître. Il le traitait, cet épître, épître de paille, car son enseignement semblerait, et je mets au conditionnel, à première vue, en contradiction avec la théologie de Paul que Luther prônait, c'est-à-dire la justification par la foi seule et non par les œuvres. Or, ici, il semblerait que Jacques met en valeur les actes avant la foi, si on lit de façon plus superficielle. Au verset 24, Jacques dit même clairement, « C'est en vertu des œuvres, on ne l'a pas lu, mais je vais vous lire ce verset, « C'est en vertu des œuvres que l'être humain est justifié. » Bam ! Tout à fait contraire à ce que Paul dit. Par la foi seule, nous sommes justifiés. Et Jacques, lui, il dit « C'est en vertu des œuvres que l'être humain est justifié. » Et non pas seulement en vertu d'une foi. Alors, en entendant cela, le lecteur de la Bible pourrait se dire « Qui suivre, Paul ou Jacques ? » Alors certains vont dire, oui, mais Jacques faisait partie des premiers à être avec le Christ. Paul, il était plus tard, donc. Mais il ne faut pas raisonner ainsi. C'est justement pour cette raison qu'il faut toujours, et je le redis plusieurs fois, de bien lire les textes et prendre en considération non seulement le contexte textuel qui est sous nos yeux, mais aussi le contexte du livre de Jacques. En analysant bien le texte, il me semble, selon ma lecture, que Jacques ne met pas du tout l'œuvre en avant par rapport à la foi comme on le croit. Mais la façon dont il élabore son argumentation, je pense qu'il met même dos à dos les deux camps. D'un côté, ceux qui disent que la foi sans les œuvres est suffisante, et de l'autre côté, ceux qui ont mal compris les propos de Jacques et justifient que les œuvres et qui pensent que par les œuvres, on pourrait mesurer la foi d'un croyant. Peut-on mesurer la foi d'un croyant à travers ses actes ? Là aussi, c'est un danger. Et souvent, nous tombons dans ce piège. Nous évaluons la foi d'une personne à travers ses œuvres. Et comme je viens de le dire pendant le culte, n'oublions pas que les œuvres, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour la société, c'est pour nos voisins, c'est pour nos prochains. Or, nous évaluons la foi de ces gens-là par ses œuvres. Une question alors s'impose. Est-ce que les œuvres effectuées par un croyant seraient un moyen pour mesurer la foi d'une personne ? En d'autres termes, est-ce qu'on peut évaluer la foi d'une personne par ses œuvres ? Je pense que déjà cette question, c'est l'erreur fondamentale à ne pas faire. Nous avons toujours cette fâcheuse tendance de mesurer la foi de notre frère et sœur en Christ ou sa relation avec Dieu en fonction de ce qu'il fait. Moi, je dirais les œuvres sont trompeuses même. En parodiant un peu l'expression habituelle, l'apparence est trompeuse, comme on dit. Et je dis cela pour deux raisons bien précises. Premièrement, Jésus lui-même, dans les évangiles, a mis en garde ses disciples à la suite de la parabole, rappelez-vous, l'arbre et ses fruits. Voici ce que Jésus avait dit, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jusque-là, c'est clair, la volonté. Et qu'est-ce qu'on met derrière cette volonté de Dieu ? Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète ? Par ton nom que nous avons chassé des démons ? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Donc vous voyez, c'est des gens qui ont fait beaucoup de choses, des choses extraordinaires, des miracles, des prophéties. Donc tout le monde dit, voilà, c'est ça l'œuvre de Dieu. Alors je leur déclarerai, dit Jésus, je ne vous ai jamais connu. Pourtant ils ont fait des miracles. Pourtant ils ont guéri des malades. Pourtant ils ont fait des prophéties qui étonner tout le monde. Mais Jésus dit, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Matthieu chapitre 7, verset 21-23. Incroyable comme verset. Analysons un peu ces quelques lignes. Jésus dit que seuls ceux qui font la volonté de son Père qui pourraient entrer dans le ciel. Or, celui qui se vantait avoir fait beaucoup de choses, comme parler en prophète, chasser des démons, faire des miracles, c'est-à-dire des prodiges, Jésus ne considère pas tout cela comme étant des œuvres qui le justifient devant Dieu. Et le pire, Jésus dénonce même qu'il ne les connaît même pas. Non seulement il ne reconnaît pas ce qu'il fait, mais il ne connaît même pas la personne qui fait la chose. Cela veut dire quoi ? Cela signifie qu'une personne pourrait faire de grandes œuvres, mes amis, qui attireraient les émerveillements de tout le monde, mais que Dieu ne reconnaît même pas. Ça peut arriver. Il pourrait effectuer des grands miracles, parler en langue, tout ce que vous voulez, mais ce ne sont pas ses actes qui lui garantissent d'être reconnu par le Christ. Deuxièmement, il faut bien faire la distinction alors entre le dynamisme et le zèle à annoncer la bonne nouvelle. Souvent, nous confondons ces deux choses. Le dynamisme, c'est un trait caractère que n'importe quel humain peut avoir. C'est une question de tempérament. Il y a quelqu'un qui a ce tempérament dynamique. Mais cela ne veut pas dire qu'il a le zèle pour annoncer la parole de Dieu. Par contre, le zèle pour annoncer la bonne nouvelle est un des fruits de l'esprit. Le dynamisme peut disparaître du jour au lendemain. Au départ, il peut brûler de mille feux, mais dans la durée, ça s'éteint. Par contre, le zèle, cette passion pour la parole de Dieu, elle ne s'éteint pas. C'est quelque chose au fond, et c'est un moteur qui le pousse à servir ses frères et sœurs. En somme, s'il faut faire une synthèse de ce texte, Jacques met bien les points sur les i. Il ne confond pas les choses et n'entre pas dans le jeu de qui est le plus important ou pas, la foi ou les œuvres. Pour lui, la foi est une affaire entre Dieu et l'homme. Voilà. La foi, c'est une relation entre Dieu et l'homme, car par elle seule que Dieu nous voit. Si Dieu te regarde, il regarde ta foi. Tandis que les œuvres ont une dimension horizontale, c'est une façon d'accomplir notre foi autour de nous, dans la société, avec nos prochains, la famille et tout le reste. Ce qui veut dire, si nous inversons ces deux choses, nous serons dans l'erreur. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin de crier sur le toit que nous sommes des croyants. Notre foi est une relation personnelle, intime, privée. Comme Jésus l'a dit, si tu veux parler à ton Dieu, ferme-toi dans ta chambre. Tu n'as pas besoin d'aller sur la place publique pour le dire que tu pries. C'est une question entre toi et moi. Tandis que si nous voulons acheter la faveur de Dieu par nos œuvres, nous ferons aussi fausse route. C'est dans la société et autour de nous que nos œuvres ont leur sens et leur importance. Si nous, ici au boulevard d'Herbat, nous sortons de ces quatre murs, c'est pour apporter, c'est pour changer le monde, c'est pour déplacer les montagnes, comme Jésus avait dit, si vous avez une foi comme les graines de senevé, vous pouvez déplacer les montagnes. Et c'est quoi ces montagnes? Ces choses qui sont figées dans la société, qui bloquent les gens. C'est là que l'Église doit montrer quelle est sa capacité. Les œuvres servent à bouger les choses, mais pas à attirer la faveur de Dieu. C'est dans la société et autour de nous que ces œuvres ont leur sens, mais pas devant Dieu. Et c'est un peu comme la phrase de Jésus face aux Juifs. Donne à Dieu ce qui est à Dieu et donne à César ce qui est à César. Et moi, je reprends ce texte et je le transforme. Donne à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire la foi, et donne à ton prochain ce qui est à ton prochain, les œuvres. Amen.